Bien, si vous voulez bien, on va commencer avec une minute d'avance, qui me permettra de terminer avec 10 minutes d'avance. Je crains que le cours d'aujourd'hui ne soit pas très, très affriolant. Ça va être de la linguistique et encore, je n'entre pas dans les détails. Nous avons vu quelle était la composition physique du Gandhara. Nous avons parlé du concept de grand Gandhara qui, à mon avis, n'est pas utile. Maintenant, puisque l'intitulé de ce cours parlait du Gandhara comme terre de passage, il faut que je vous parle un peu de son peuplement au cours des âges. Sur le peuplement ancien, on ne sait pas grand-chose. Il faut bien que vous rendiez compte que dans la définition très étroite du Gandhara que j'ai donnée, et qui est la définition historique, entre le fort de Jamrud, ou si vous préférez le col de Raiber, et l'Indus, c'est-à-dire cette toute petite région, nous sommes dans un terrain qui est très arrosé par des rivières, que ces rivières ont tout le caractère de torrents de montagne, et que donc, d'une part, lorsqu'elles débordent, elles apportent beaucoup d'alluvions, et lorsqu'elles débordent trop, comme l'hiver passé, elles détruisent beaucoup de choses. Le résultat, c'est que je ne connais pas la profondeur des sédiments dans la région de Peshawar, elle doit être très grande, mais le résultat est que tous les sites qui étaient en plaine ont été submergés par les alluvions, détruits par les inondations et les rivières changeant de terrain. Et en plus, comme c'est une terre intensément cultivée, rasée par les paysans qui faisaient des champs et qui les nivelaient pour permettre l'irrigation. C'est donc seuls les endroits un peu élevés, c'est-à-dire les endroits où il y a des îlots de pierres qui sortent des alluvions. Ce sont à peu près les seuls endroits où nous avons des restes archéologiques. Ou alors, dans les restes de deux grandes villes, effectivement, il y a deux grands TP, comme on dit, c'est-à-dire deux grandes accumulations archéologiques, autour de Charsada, près de la rivière de Kaboul, et autour de Peshawar. Mais tout ce qui était village et autres a disparu. Or, à époque ancienne, les populations se mettaient près des rivières. Et donc, tous les sites anciens ont été détruits. C'est sans doute la raison pour laquelle on ne trouve pas dans la région de Peshawar, jusqu'à maintenant, de traces de la civilisation de l'Indus, dite de Harappa et de Mohenjo-Daro. Harappa se trouvant à peu près ici et Mohenjo-Daro à peu près là. Ça n'est pas très étonnant dans la mesure où, comme le montre la situation de ces deux grands sites, la civilisation harappéenne, qui tire son nom de la ville de Harappa et dont le maximum de prospérité va de 2500 avant notre ère à 1800 environ, je dis bien un maximum de prospérité, ça a commencé avant et ça s'est terminé un peu après, mais la belle période, c'est 2500-1800. C'est une civilisation qui est essentiellement le long de cours de rivières de plaine. Ce n'est pas une civilisation de montagne, et c'est le long de l'Indus. On comprend qu'il n'y ait pas eu d'établissement dans la région de Peshawar, encore qu'on n'en sache rien. Mais ce que l'on sait, c'est que les habitants de Harappa et Mohenjo-Daro, au cours du deuxième millénaire, ont eu des liens avec l'Asie centrale et ont eu des liens avec l'Asie centrale, tout simplement, j'en avais parlé dans un de mes cours, parce que l'on a des témoignages d'objets du Turkménistan, donc de cette région-là, dans la région de Mohenjo-Daro. Inversement, on a la preuve de un ou deux sceaux de Mohenjo-Daro dans les fouilles de Gonur. Mais pour ce qui nous intéresse, surtout à l'embouchure presque de la Kokcha, la rivière qui descend du Pakistan, et de l'Oxus, à quelques kilomètres d'Ayranoum, M. Frankfort a fouillé il y a une trentaine d'années un site qu'on appelle Shortugai, qui manifestement est une colonie harappéenne, puisque la céramique est de type harappéen. Or, quand vous avez ici un site harappéen et que Harappa est à peu près ici, vous vous rendez bien compte que la route la plus courte, ce n'est pas celle-ci, hein, mais c'est celle-là. Et elle est relativement facile. C'est la route que prenaient les trafiquants d'armes pendant la guerre afghano-soviétique. Ça se faisait à dos de mulet. Il s'agit de remonter la vallée du Dir, c'est-à-dire le Swat, le Dir, arriver au Chitral et par un col pas très difficile, descendre le Badarshan, et on est juste à la source de la Kokcha et on peut descendre. Donc ceci implique un passage par la région de Peshawar. Il y a donc peut-être eu des établissements harappéens dans la région de Peshawar, on n'en a aucune trace. Aucune trace. Pas même un tesson dans les musées locaux. On a des établissements fouillés par nos collègues pakistanais et britanniques dans la région de Banu, dans cette région-là, qui ne sont pas exactement des établissements européens, mais qui sont des établissements du deuxième, troisième millénaire. Mais on n'est plus tout à fait dans le Gandhara et on est dans un autre type d'économie qui est une économie pastorale avec des sites qui sont en territoire montagneux. Donc la première attestation de population arrivant dans cette région, c'est la population dite indo-européenne. Je vais revenir un peu sur ce que ça signifie, mais il faut que vous sachiez que, bien que ça apparaisse de temps en temps dans la littérature scientifique, il n'y a pas de traces archéologiques de l'arrivée des Indo-Européens en Inde. La seule trace qui, dans la région, est considérée comme étant Indo-Européenne d'après nos collègues archéologues, ce sont un certain nombre du Swat. On n'est plus tout à fait dans le Gandhara, on est dans cette vallée-là, qu'on peut considérer comme parlant pour le Gandhara, puisque les tombes du Gandhara ne sont plus accessibles, elles sont recouvertes d'alluvions. On peut considérer que c'est la même population. Et dans le Swat, notre collègue italien Stakul, ce sont des Italiens qui ont beaucoup travaillé dans le Swat depuis les années 50, a découvert une céramique grise qui, à l'époque, était considéré par les archéologues, et en particulier par Gershman, comme un témoignage de l'avance des Indo-Européens, cette céramique étant caractéristique des Indo-Européens. Alors, ceci n'est quand même plus admis maintenant, pour diverses raisons. D'abord parce qu'il y a plusieurs types de céramique grise. mais surtout pour une raison absolument essentielle, c'est que vous ne pouvez pas mettre en rapport un artefact, c'est-à-dire un objet construit, comme disent les archéologues, un artefact, un objet fabriqué, avec une population, quand de cette population vous ne connaissez que le nom. Les artefacts sont anonymes. Si la population n'a pas laissé de texte, et même si elle en a laissé, vous ne pouvez pas mettre les deux en rapport. Dites-vous bien que nous soyons à une époque qui n'est pas de fabrication industrielle, mais une bouteille de Coca-Cola n'est pas nécessairement possédée par un Américain. Ça a l'air très gros comme exemple, mais on peut prendre des exemples plus petits. Les bouteilles de vin d'Alsace que vous trouvez à Paris sont pas, elles témoignent d'un commerce, elles ne témoignent pas de la présence des Alsaciens à Paris. Et si vous vous reportez à l'époque très ancienne, y compris à l'époque préhistorique, vous avez des commerces de haches préhistoriques qui se font sur des centaines de kilomètres, et on le sait parce qu'on les trouve dans des endroits très éloignés des carrières d'où provient la pierre, et vous avez donc des problèmes de commerce, mais vous avez aussi des problèmes d'adaptation. Faire de la céramique grise, c'est quand même non tournée, c'est quand même pas un exploit technologique, et une population locale peut très bien avoir adopté une technologie qui vient de l'extérieur. Donc il n'y a strictement aucun rapport entre une population qui est attestée vaguement et une autre et des artefacts. Nous ne savons pas à qui appartient la céramique grise du Swat. C'est une céramique locale, de toute façon. Elle a des rapports avec la céramique d'Asie centrale du deuxième millénaire. Mais qui l'utilisait, nous n'en savons rien. Si vous voulez vous renseigner là-dessus, en français, le livre qui est encore le meilleur et sur lequel j'ai fait cours ici, c'est Arya, Aryan, Iranien en Asie centrale, où vous avez un long papier de Francfort sur les rapports entre la civilisation de l'Oxus, ou qu'on appelle aussi la Bactromagen, la civilisation de Bactriane et de Margiane, BMC, BIMAC, et puis l'Inde du Nord, et puis vous avez un papier de moi qui fait le point sur ce qu'on sait de l'invasion des Indo-Européens. Alors, pour revenir à la carte, comme on n'arrive pas à suivre les Indo-Européens à la trace physique, on ne peut les suivre qu'à la trace qu'ils ont laissée dans les langues. Alors, là, si vous regardez la carte, pour les Indo-Européens venant soit d'Iran, soit d'Asie centrale, il y a deux voies de pénétration possibles, parce que tous ces gens-là voyageaient, d'après les textes, avec des troupeaux de bœufs, et donc ils devaient quand même trouver des pâturages, l'un le long de la rivière de Herat, par ici, et le Séistan, et vous arrivez par la passe de Bolan, sur la région du Baloutchistan. C'est un itinéraire connu depuis très longtemps, puisque c'est dans cette région que se trouvent les établissements indiens, si j'ose dire, les plus anciens, ceux qu'ont fouillé les Jarriges dans la région de Mergare et qui date du 8e millénaire. C'était la partie, la plus peuplée de l'Inde du Nord à l'époque, sans doute la plus active, et l'on a de très nombreux témoignages des liens de ces populations, pas au 8e millénaire, mais plus tard, avec l'Iran et avec le golfe Persique, et de là avec Sumer. La route était connue, il n'y avait qu'à la suivre. Et puis, la route plus courte, si on se trouvait ici, c'est de prendre la fameuse route de Bactraxila que Fouché a bien décrite et qui passe par des vallées où vous avez des pâturages avec quelques cols qui ne sont pas très difficiles. Il y a une route plus directe par les autres cols, mais la route de Bactraxila par le col de Michni est une route relativement facile avec des cols qu'on n'a pas besoin d'escalader, que les bêtes de somme et les troupeaux de bœufs peuvent assez facilement passer et au pied desquels ils trouvent tout de suite de l'eau et de quoi manger. Donc ce sont des itinéraires théoriques et l'on ne sait pas normalement, mais je vais vous dire pourquoi on sait quand même un peu, on ne sait pas normalement lequel de ces itinéraires a été emprunté. En fait, ils ont tous été empruntés. Alors, il faut que je revienne sur mon dada, que j'ai déjà exposé plusieurs fois ici, mais c'est quelque chose qu'il faut réexposer sans cesse, puisque les gens ont tendance à confondre les crânes et les langues. Vous avez d'une part les langues et d'autre part les crânes. Les linguistes européens ont forgé au XIXe siècle la notion de langue indo-européenne, c'est-à-dire langue dont l'aire où on les parlait s'étend à l'est du golfe du Bengale, de l'Inde, et à l'ouest de l'Europe, c'est-à-dire jusqu'à l'Irlande, plus les colonies américaines, donc de l'Inde. C'est ce que nos collègues allemands ont appelé longtemps indo-germanisch, parce que les langues de l'ouest, le plus à l'ouest de l'Europe, étaient les langues germaniques et que c'était des langues apparentées à la langue qu'eux-mêmes parlaient. Ceci, c'est un concept de linguistique. Et c'est un concept qui a si peu de réalité physique que les linguistes, au bout de deux siècles, se disputent toujours sur la répartition exacte des langues indo-européennes et sur leur filiation respective. Il faut que vous compreniez bien que cette filiation a été obtenue en comparant un certain nombre d'éléments de vocabulaire non susceptibles d'être empruntés, par exemple le nom du père, le nom du frère, le nom de la mère, le nom de la sœur, qui sont des mots qui ont toute raison d'être hérités, ou des noms de nombres de 1 à 10. Et encore, ça ne fonctionne pas pour tous les nombres de 1 à 10, quelques pronoms. Et l'on s'aperçoit assez vite que dans un grand nombre de langues modernes et anciennes, le nom du père se dit à peu près de la même façon. Ça vient d'un ancien pater, qui donne Vater en allemand, Vater en anglais, etc., père en français. Le nom de la mère, c'est la même chose. Et ensuite, les linguistes rétablissent une forme théorique à partir de laquelle on dérive ces formes. Quand vous regardez dans un article de linguistique contemporain à quoi ressemblent ces formes théoriques anciennes, vous apercevez qu'elles sont très loin des formes que vous prononcez. Alors, ceci, c'est un concept d'histoire linguistique et ça permet de suivre le développement des langues, de même que l'on arrive à suivre le développement du latin parlé, aux Français du Moyen Âge et aux Français contemporains, avec des divergences avec, par exemple, l'espagnol, l'italien et le roumain, alors que le point de départ est à peu près le même. Donc, c'est quelque chose... Et alors, ça va même plus loin que ça, puisque grâce au processus d'évolution théorique qui ont été établis par les linguistes du XIXe et du XXe siècle, on a pu déchiffrer assez facilement, au XXe siècle, deux langues indo-européennes, après avoir postulé qu'elles étaient indo-européennes, le hittite et ce qu'on appelle le linéaire B, c'est-à-dire une langue de la Crète et du bassin méditerranéen. Donc ça marche. Mais ça ne vous dit pas que les gens qui parlaient l'ancêtre du latin et l'ancêtre du grec et l'ancêtre du hittite étaient très proches linguistiquement, étaient très proches génétiquement. C'est probable, ça n'est pas sûr. Les langues sont quelque chose qui s'adopte très vite. Vous avez autour de vous toute une série de gens qu'on appelle les immigrés qui, au cours de la vie, ont changé une fois, parfois deux ou trois fois de langue et qui utilisent des langues apprises comme leur langue maternelle et dont ces langues apprises deviennent en fait les langues maternelles de leurs enfants. Et ceci a toujours été vrai. On peut le montrer assez facilement. Si les Celtes qui habitaient la Gaule avant que les Romains n'en fassent la conquête n'ont pas tous été tués par les Romains. Or, tous aujourd'hui, à part quelques Bretons bretonnants, et encore ceux-là sont bilingues, et à part quelques Alsaciens, et encore ceux-là sont bilingues, à part quelques Corses, et encore ceux-là sont bilingues, tous aujourd'hui parlent français. Et ça dure depuis très longtemps. Hein. Des Bretons qui parlent le français, il y en a eu avant que l'école primaire devienne obligatoire sous la 4e République, où on les force à appeler le français. Les processus de changement de langue sont des processus très, très bien documentés. En Italie même, le latin n'était qu'un des parlés indo-européens de l'Italie et il a gagné peu à peu toutes les villes de l'Italie. Donc la langue ne vous, ne vous dit rien sur la population. Mais quand soudain vous avez un parler qui, selon toute probabilité, d'après les documents que vous avez, n'était pas originaire de la région et qui arrive et qui se répand, il est clair qu'il n'est pas arrivé tout seul. Il y avait des gens qui le parlaient. Et donc, bien qu'on ne puisse pas dire grand-chose de l'aspect physique ou de la génétique de ces populations, on voit arriver sur la carte linguistique un groupe qui parle une langue qui auparavant n'existait pas, qui génétiquement n'est pas apparenté aux langues dont on sait qu'elles étaient parlées dans la région et qui est par contre apparenté à des langues qui se trouvent ailleurs. C'est ce qui s'est passé avec le peuplement de l'Inde. Sauf quelques Indiens qui, pour des raisons nationalistes, considèrent qu'Harappa est nationaliste et religieuse, qu'Harappa et Mohenjo-Daro ont parlé le sanskrit. Il est tout à fait clair pour la grande majorité des savants qu'à Harappa et à Mohenjo-Daro, on parlait une langue non indo-européenne. On a longtemps cru que c'était une langue dravidienne. On ne le croit plus, enfin, on n'en est plus sûr aujourd'hui, mais dans l'Inde très très peu peuplée du début du deuxième millénaire ou de la moitié du deuxième millénaire avant notre ère, puisque c'est à cette époque que les Indo-Européens sont arrivés en Inde. Dans cette région, il y avait des langues qui n'avaient rien d'Indo-Européen et qui ont laissé des traces dans un certain nombre de langues modernes de l'Inde. Alors, ces langues, l'hypothèse dravidienne est pour l'instant en partie rejetée, mais il y avait d'autres langues, et par exemple, on en trouve les restes dans le vocabulaire agricole de ces régions. Et ce que l'on constate au cours des siècles, et ce que l'on constate encore maintenant, c'est que ces langues locales sont repoussées vers l'est et vers le sud par des langues qui sont apparentées au latin et au grec ou au russe ou au persan, mais qui ne sont pas du tout apparentées, par exemple, au turc ou au tamoul ou au télougou, par exemple. Du point de vue de linguistique, il n'y a aucun problème. On suit très bien sur la carte la progression de ces langues indo-européennes de l'Inde vers le sud, qui se continue maintenant, puisque même si l'Inde est un État plurilingual maintenant, puisque la pluralité linguistique de l'Inde est reconnue dans la Constitution avec des langues nationales, des langues régionales et des langues locales reconnues dans la Constitution et qui trouvent sur place d'ardents défenseurs, y compris institutionnels, avec en plus une grosse rivalité entre les langues du Nord et les langues du Sud. Donc, même si l'Inde est un État plurilinguistique ou plurilingual, ce qui tend à s'imposer de plus en plus, malgré les résistances locales, c'est la langue du Nord. En gros, le hindi, le bengali et le marathi, qui chacun sont en train d'étendre l'air où ces langues sont parlées. Et par-dessus ces trois langues, vous avez l'anglais, qui est la langue d'unification de l'Inde. Et si vous voyez donc que le processus de, si j'ose dire, d'indo-européanisation des langues indiennes se continue, avec deux choses à remarquer, c'est qu'à partir d'un certain moment, vous n'avez pas besoin d'une invasion, parce que on peut pas dire que, enfin, d'une colonisation. Il y a eu une colonisation britannique en Inde. Enfin, ça n'a été que quelques dizaines de milliers d'individus. Et on parle l'anglais maintenant dans beaucoup d'endroits qui n'ont jamais vu un Britannique. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça ne se fait pas nécessairement par la violence. Personne ne force les Indiens à apprendre l'anglais et à s'exprimer majoritairement en anglais à la chambre, tout simplement parce que c'est la seule manière de se comprendre. Et vous avez, si vous lisez les journaux indiens, vous verrez que de temps en temps, il y a un scandale à la chambre parce qu'il y a un marathe qui veut parler en marathi et que personne ne le comprend. Il y a, par contre, il y a un député de la région de Patna qui interpelle le Premier ministre parce qu'il parle en anglais et qui lui rappelle que sa langue, c'est le hindi, sans compter les émeutes linguistiques dans le sud de l'Inde. Donc, ceci est une réalité, et la réalité se faisait, c'est toujours fait comme ça depuis trois millénaires maintenant, avec cette différence qui est énorme, c'est que les choses allaient moins vite. Il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, c'est qu'il y avait beaucoup moins de population et que comme il y a moins de population, les contacts étaient moins grands. C'est comme ça que des isolats ont pu continuer à parler leur langue dans les montagnes ici et puis aussi dans la région de Chhattisgarh. Et enfin, que ça peut se faire sans violence. et que ça a été un processus lent. Mais il y a une langue dominante qui s'est imposée pour diverses raisons, et je dois dire que toutes les raisons pour lesquelles les langues indo-européennes de l'Inde se sont imposées, ce sont des raisons que nous imaginons, mais nous n'avons aucun moyen de le savoir. Alors, on dit que c'est à cause des brahmanes, on dit que c'est à cause du bouddhisme, on dit à cause de tout ce qu'on veut, mais c'est possible, mais nous ne savons pas pourquoi elles se sont imposées. La raison pour laquelle les gens adoptent une langue plutôt qu'une autre, ça n'est pas toujours facile à voir. Ça n'est pas toujours facile à voir. Pourquoi est-ce que les colons français du Canada refusent, du moins disent qu'ils refusent l'anglo-américain, alors qu'en général ils sont bilingues? On ne peut pas dire qu'il y a, à part le fait de refuser l'anglo-américain pour lui, ils n'ont aucune raison objective de le refuser. Ce n'est pas l'appui que leur a donné la mère patrie qui les pousse à ça. Ce n'est pas non plus les relations qu'ils peuvent avoir avec elle qui les poussent à ça. Donc, mais le phénomène est là. Alors, ces langues indo-européennes de l'Inde, pour simplifier, on les a appelées indo-aryennes. On sait que l'état de l'indo-européen qui est arrivé était le résultat d'une séparation très récente entre les langues iraniennes et les langues indiennes anciennes. Il y a, si vous suivez les cours de mon collègue Kellens, vous verrez que entre la langue iranienne la plus ancienne connue, celle des Ghâthas de l'Avesta, qui doit remonter au premier millénaire avant notre ère, peut-être avant, et la langue indienne la plus ancienne connue, celle du Rig Veda, qui doit remonter, qui remonte au deuxième millénaire et qui a sans doute été fixée au début du premier millénaire, il y a vraiment des analogies extrêmement grandes, au point que mes collègues Kellens ou Cherveux disent de façon très, très affirmée que ce sont deux dialectes d'une même langue. Ils le disent de cette façon-là parce qu'il y a une polémique dans les études iraniennes anciennes sur la façon de traduire l'avestique ancien. Et qu'eux pensent que justement l'un des meilleurs moyens de traduire l'avestique ancien, c'est de trouver les parallèles dans le Rig Veda, il y en a beaucoup. Sans aller jusqu'à dire que ce sont deux dialectes, ce sont au moins deux états aussi proches, presque aussi proches l'un de l'autre que l'italien contemporain, le français contemporain et l'espagnol contemporain peuvent être proches l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'une personne cultivée, maintenant, ça n'existait pas dans l'Antiquité, les personnes cultivées qui a fait du latin, arrive avec un dictionnaire à lire de l'espagnol, un français cultivé arrive avec un dictionnaire à lire de l'espagnol ou de l'italien. Et un italien n'a pas grand-peine à apprendre le français. Apparemment, l'inverse n'est pas vrai, puisque je constate que beaucoup d'Italiens parlent très bien le français et qu'il y a très peu de Français qui parlent très bien l'italien. Enfin, en tout cas, il est clair qu'à époque ancienne, nous avons deux variétés du même langue et que nous ne savons en principe pas où elle est passée. Alors, Grierson, à la fin du XIXe siècle, a utilisé un procédé qui avait été mis en place en France à la fin du XIXe siècle par un linguiste qui s'appelle Gilles Hieron et qui a été très développé en particulier en Suisse et un peu moins en Allemagne, qui est le processus des atlas linguistiques, ce qui en anglais se dit « Linguistic Survey of India ». Alors, le principe est celui-ci, on est même dans une région que l'on connaît très bien. Vous établissez un questionnaire vous savez à peu près ce que vous allez demander, vous cherchez un informateur pour savoir comment il dit dans son village le papa, la maman, le frère aîné, le frère cadet, parce que dans les degrés de parenté, en général, on va beaucoup plus loin que la simple notion de frère et sœur, première sœur, deuxième sœur, oncle maternel, oncle paternel. Donc, toujours ces mots qui ont chance de ne pas avoir été empruntés, les noms de nombres, comment se conjugue un verbe courant. Le verbe qui a été choisi pour l'Inde, c'est le verbe frapper, tuer. Il a été choisi pour des raisons grammaticales, parce que ça permet de suivre un certain nombre d'évolutions phonétiques. Les exemples, c'est toujours « je frappe ma mère » ou « mon père m'a frappé », etc. Ou « veux-tu que je te frappe ?» Donc, c'est le mot qui est choisi. Un certain nombre de tournures grammaticales. Et puis, pour compléter, on leur demande un petit texte pour voir les raisons syntaxiques. Alors, Grierson, Gilles Hieron pour la France. La France, c'est tout petit hein, par rapport à l'Inde. La France, ça correspond à peu près à ça. Hein, donc, Gilles Hieron, lui, c'était très simple. Il avait un assistant, il prenait son vélo, il allait lui-même de village en village. Pour l'Inde, c'était assez difficile. Et donc, Grierson a envoyé des questionnaires à tous les fonctionnaires britanniques en place, qui, évidemment, n'étaient pas du tout formés à la linguistique et en particulier aux transcriptions phonétiques. Alors, tous les fonctionnaires britanniques qui étaient dans les petits postes, dans les montagnes, à Gilgit, ou à Dera Ismail Khan, mais aussi à Jaipur, à Lucknow, etc., ont reçu un questionnaire. Et pour que les textes soient comparables, les informateurs locaux devaient traduire un psaume de l'Ancien Testament, je crois. Et puis tout ça est arrivé à Grierson. Ça a été publié, il y en a 8 volumes, c'est quand même le relevé le meilleur qui a été fait jusqu'à présent des langues indiennes. Les Indiens et les Pakistanais ont essayé de reprendre ça, mais ce n'est pas aussi bon. Moi, j'ai essayé de le reprendre au Pakistan, mais heureusement, je n'ai pas eu les autorisations nécessaires. Donc, j'ai pu faire autre chose. Et à partir de ça, Grierson a établi une théorie qui est célèbre des deux vagues de pénétration. Une première vague relativement archaïque qui serait établie ici, et puis une deuxième vague qui aurait foncé directement vers le cœur de l'Inde et qui serait installée au cœur de l'Inde. Et la raison, c'est qu'une vague était archaïque et l'autre l'était moins. Et donc, celle qui était moins archaïque, c'était la plus récente. Alors, quand on a regardé ça d'un peu près, on s'est aperçu qu'en fait, toutes ces langues remontaient à un même état de langue, mais que leur vitesse d'évolution n'avait pas été la même. De même que le Corse et le Sarde sont un peu plus archaïques que l'italien, mais que ça ne prouve pas que la dérivation linguistique soit la même. Donc la théorie est abandonnée. Parce que il est clair que à partir du moment où on arrive à poser pour toutes les formes de Punjabi ou de Hindi ou de Marathi ou de Bengali un étymon commun, on peut considérer que ces langues remontent à un état de langue commun. Et du point de vue des langues indiennes, bien que ce soit faux, tout le monde sait que c'est faux, mais pratiquement, on peut dire que l'état de langue commun c'est le sanskrit classique. Toutes les langues indiennes de la plaine, quand on en fait l'étymologie, on arrive à poser ou bien un étymon sanskrit, vrai ou attesté, ou alors un mot reconstruit dont on ne sait pas de quelle origine il est. Mais pour les formes essentielles, il suffit de partir du sanskrit. Et donc, la conclusion est tout à fait claire, même pas le sanskrit védique. Le sanskrit védique, il y a des dialectes dans le sanskrit védique, mais la conclusion est claire, c'est que, évidemment, les populations indo-ariennes, on dit indo, on aurait pu dire simplement ariennes, mais on dit qu'elles sont indo-ariennes pour les différencier ariennes, pour les différencier des parlers iraniens, qu'on pourrait appeler irano-ariens, et pour les différencier des langues non indo-européennes, que sont les langues dravidiennes ou les langues munda, c'est-à-dire les langues dravidiennes comme le tamoul, le malayalam, le telugu, etc. Donc, si on peut faire remonter toutes les formes connues indo-ariennes contemporaines à un étymon sanskrit, ça signifie très probablement qu'il y a eu à un moment donné une unification. Parce que si vous regardez la carte, il n'y a pas de raison de supposer qu'il y ait eu une seule voie de pénétration. Il ne faut pas imaginer une invasion indo-européenne de l'Inde comme étant la grande armée de Napoléon envahissant la Russie. D'après ce qu'on peut savoir, et on ne sait pas grand-chose, et chaque découverte pose des problèmes, mais enfin, ce sont des petits groupes de quelques familles qui avancent avec leurs chariots, encore qu'on se demande comment ils ont pu passer la montagne avec leurs chariots, et avec leurs troupeaux le long des rivières, et qui, évidemment, n'ont pas Google Earth ni les cartes Michelin pour aller en Inde, et qui donc avancent vers le sud, sur lequel ils ont peut-être des notions. On leur a dit que c'est un pays de cocagne, puisqu'il y a des liens entre le Turkménistan, l'Iran et l'Inde depuis le 4e millénaire avant notre ère. Ils avancent vers le sud en poussant leurs troupeaux au rythme de quelques kilomètres par jour. Et on ne sait pas de combien de kilomètres par génération, parce que tant que les territoires sont acceptables, ils y restent. Et puis, à un moment donné, ils se retrouvent en Inde. Ce sont des gens qui parlent à peu près la même langue. Il doit y avoir des dialectes. Ces dialectes, on en trouve trace dans la langue du Rig Veda. C'est pour cela qu'elle est si compliquée. Et à un moment donné, ils prennent une des nombreuses passes qui permet de passer en Inde, soit le long de la côte, qui est le chemin qu'ont pris les pré-indo-européens et ensuite les Arabes, soit par le Zaboul, le Séistan et la région de Quetta, soit peut-être par les montagnes. Et c'est là que s'est produit une unification linguistique aux alentours du premier millénaire avant notre ère, et dont on a peut-être l'une des traces dans la collection du Rig Veda, dont vous savez que c'est un ensemble d'hymnes qui a été rassemblé et qui est devenu le livre sacré de tous les Indiens, et qui était, et dont la teneur a été gardée intacte au fil des siècles par des prêtres spécialisés qui l'apprenaient par cœur. Et c'est probablement le facteur d'unification qui est atteint probablement au 4e, au 5e siècle avant notre ère, et dont la trace évidente de cette unification, c'est la grammaire de Panini. La grammaire de Pani, bien qu'il y ait eu d'autres dialectes indiens. Ça, les dialectes, c'est toujours comme ça. Hein. Vous avez une phase de fragmentation. À un moment donné, la fragmentation, il y a ou bien un dialecte qui l'emporte, ou bien une espèce de lingua franca qui se constitue, un peu comme, comme le français actuel, ou comme l'anglais du 19e, du 20e siècle, et puis ça se redialectalise à nouveau, comme le français actuel, où vous avez des dialectes dans nos banlieues qui ne ressemblent pas du tout au français que je suis en train de vous parler, ou comme l'anglais, qui est une langue globale maintenant, c'est-à-dire que vous avez un anglais qui est parlé par tout le monde et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'anglais du 19e siècle ou même du 20e siècle, l'anglais cultivé, et puis par ailleurs, des variétés d'anglais que vous ne comprenez pas quand vous vous retrouverez dans un aéroport au Texas ou au Wisconsin. Vous aurez peut-être du mal à comprendre ce qu'on dit au haut-parleur. Donc ce processus est un processus constant. Donc vous avez eu en Inde un processus d'unification linguistique de la couche supérieure qui allait donc donner toutes ces langues indo-aryennes du nord de l'Inde et en même temps un processus de fragmentation que vous avez, dont vous avez le premier témoignage dans les inscriptions d'Ashoka, qui sont censées être écrites dans le dialecte local. Et tout ce qu'il y a dans les inscriptions d'Ashoka peut se ramener très facilement à un seul étymon commun, à une seule origine linguistique commune, c'est-à-dire le sanskrit classique. C'est pour cela que le grand dictionnaire étymologique des langues indo-aryennes de langue moderne, le dictionnaire de Turner, qui est une très, très, très grande œuvre, a pour entrée, les mots de départ sont toujours des mots de sanskrit. Et quand le mot de sanskrit n'existe pas, eh bien, on l'invente, puisque il y a des formes sanskrites théoriques qui ne sont pas attestées, mais qui sont attestées par le fait qu'elles ont des descendants dans les langues modernes. Donc, l'avancée des langues indo-aryennes vers le sud dans l'Inde, c'est l'avancée et du sanskrit et des langues dérivées du sanskrit. Les deux sans le mur. Il n'y a qu'un seul endroit où il y a des langues indo-européennes qui ne peuvent pas descendre du sanskrit, c'est ici. Cette région-là. Alors, je reprends ma carte linguistique. Qui est sommaire. Si vous voulez entrer dans le détail, je vous renvoie à ce livre qui est absolument illisible, qui est l'Atlas linguistique des parlers d'Ardes et Kafir, qui est cité partout, mais je suis sûr qu'il n'y a pas plus de 10 personnes qui l'ont lu. Mais enfin, il y a des listes de mots, donc on reprend les mots. Par contre, c'est résumé de façon assez simple dans les premières pages de cet article du Journal asiatique. Alors, ce n'est pas moi qui ai découvert ça, hein, je dois vous dire. Ce n'est pas moi qui ai découvert qu'il y avait des langues particulières. C'est une découverte qui a été faite justement à la suite du Linguistic Atlas, Linguistic Survey de Grierson. La personne chargée de publier ce Linguistic Survey était un grand indianiste norvégien qui s'appelait Sten Konhoff, qui a écrit sur les inscriptions Karoshti, le corpus que je vais utiliser tout à l'heure en essayer de son nom, il est paru en 1929, et qui a écrit sur des langues iraniennes et langues sakha, et puis qui a publié le volume du Linguistic Survey of India de cette région, avec des relevés fait par des officiers britanniques qui n'étaient pas linguistes. Et il avait en plus entre les mains un livre remarquable d'un dénommé Robertson qui s'appelle « Les Kafirs de l'Hindou Kush », The Kafirs of the Hindu Kush, paru en 1896, et puis quelques relevés antérieurs, en particulier d'un Allemand fou qui enseignait à Lahore, qui s'appelait Leitner. Et Konoff s'est aperçu qu'il y avait dans cette région des langues indo-européennes qui n'étaient ni indo-ariennes ni iraniennes. Alors regardez un peu la... ensuite, l'information a été beaucoup développée par Georg Morgenstern, qui était le gendre de Konoff, c'était une affaire familiale, et qui lui a pu aller sur le terrain et a fait en particulier des relevés dans cette région et dans cette région. Mais c'était Morgenstern a travaillé entre 1920 et 1940, et la plupart du temps, ces relevés, il les a faits à Peshawar, ou il les a faits à Kaboul, où on lui a porté des informateurs trouvés au bazar et dont on savait qu'ils venaient de vallées reculées et qu'ils parlaient des langues assez bizarres. Donc on lui ramenait ça parce qu'il était quasiment impossible d'aller là-bas. Toujours impossible d'ailleurs, toujours assez difficile. Moi, j'ai fait ma thèse sans pouvoir y mettre les pieds. Alors il y a eu une petite fenêtre de 4 ou 5 ans où on a pu aller dans ces régions, mais ça a été très... dans les années 65-70, mais ça s'est vite refermé. C'est le moment où les Danois ont pu faire quelques études ethnographiques. Et dans cette région-là, qui est un peu plus accessible, des Allemands, M. Boudrous en linguistique et M. Klimburg en ethnologie. Alors, regardez un peu cette carte. Évidemment, il n'y a pas les frontières modernes. Vous avez là les deux grands fleuves, la rivière de Kaboul, qui rejoint l'Indus, ici. La plaine du Gandhara, ça s'arrête là. Et ici, vous avez un certain nombre de petites plaines, la région de Jalalabad et dans la région de Kaboul. Mais c'est vraiment des choses très... Ce sont des vallées ou ce sont des choses assez simples. Alors, vous pouvez voir que la progression des langues contemporaines s'est faite le long des rivières. C'est-à-dire que le long des rivières, il y a eu des peuplements de Pachtou. Tout ce qui est en gris ici, c'est du Pachtou. Tout ce qui est en gris ici est du Pachtou. Ceci est une carte d'environ 40 ans. Le Pachtou, maintenant, monte beaucoup plus haut. Il monte quasiment là, jusqu'aux sources. Là, il doit monter aussi par là. Et surtout ici, il monte beaucoup plus haut. Les troupes françaises qui sont ici sont en région Pachtou. La raison est que les Pachtous sont une population extrêmement guerrière et qui est organisée pour la conquête. Ce sont des gens qui viennent de montagne où on crève de faim, et donc quand il y a possibilité de saisir des territoires où l'on ne crève pas de faim, eh bien, ils y vont. Ce ne sont pas des migrations pacifiques. Ça se fait, ça se faisait à la force du sabre. Maintenant, ça se fait à la force du fusil. Je ne suis pas allé ici, mais ça, c'est une région que je connais bien au Pakistan. C'est la région de Chilas. C'est les villages non pachtous, ce sont organisés en forteresse, mais on sait qu'au XIXe siècle et même au début du XXe siècle, il y en a beaucoup qui ont été pris par les Pachtous et les terres partagées, par exemple la vallée de Candia. Et Moi-même, j'ai assisté dans cette région à, à quasiment un affrontement entre berger pachtou, berger goudjar et berger tchilassi. Le problème, ce n'est pas d'essayer d'aller habiter ailleurs, le problème, c'est de trouver des pâturages quand on est un berger, pour des pâturages d'été pour les troupeaux, et de se les assurer. Maintenant, il y a aussi le problème du bois, il y a le problème et de l'agriculture, mais le problème essentiel, c'est de trouver des pâturages. Des pâturages, il y en a en altitude. Donc tout ceci a été conquis par les Pachtous, et la ligne des Parlés, cette ligne ici que vous avez là, qui est celle des Parlés indo-ariens, elle était au XVIIIe siècle, ou enfin, même avant un peu, enfin disons au XVe siècle, elle était ici, beaucoup plus bas. On sait que la vallée du Swat a été conquise au XVIe siècle par les Pachtous. Donc ce à quoi l'on assiste, c'est un mouvement vers le nord, vers les hautes vallées des Pachtous, évidemment. Les populations qui étaient sur place n'ont qu'une solution devant elles, c'est d'aller encore plus haut. Et donc, toutes ces hautes vallées, là, on est à 3 ou 4 000 mètres. Hein. Ici, on est à 3 ou 4 000 mètres. Donc, songez qu'ici, on est à 1200 mètres, ici, 800. Kaboul est à 1800. Mais ici, on est à 3 000 mètres et le col de Babousar est à 4002. Gilgit est à 1800. Donc toutes les populations qui sont encore dans ces vallées et qui ne parlent pas le pachtou sont des populations qui ont été repoussées. Dans ces populations, il y a deux types de langues. Vous avez un certain nombre de langues, comme par exemple ici le chinois, mais ici également le bashkarik, dont il ne doit pas rester grand-chose, ou le torvali, dont il ne doit pas rester grand-chose. Le Kowar, qui lui est bien attesté parce que c'est la langue du Chitral. Le Kalasha, qui depuis 68 attire tous les pseudo-ethnographes en mal de hachiche, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Vous avez un ensemble de langues, quand vous les regardez en linguiste, évidemment, elles n'ont aucun rapport apparemment avec le Landa ou avec le Punjabi ou avec le Hindi, mais vous voyez très facilement que c'est tout simplement parce qu'elles sont plus archaïques. Elles sont plus proches de ce pseudo-sanskrit que j'ai mis à l'origine de toutes les langues indo-ariennes du nord de l'Inde. Elles en sont plus proches parce qu'elles ont évolué moins vite. Et c'est normal, ce sont des langues qui sont restées isolées. Alors elles ont évolué à l'intérieur d'elles-mêmes, mais elles n'ont pas évolué par rapport aux autres. Si vous voulez, je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais dans un isolat, vous n'avez pas d'influence extérieure, vous en avez peu. Il y a toujours des influences extérieures, on passe toujours. Donc, vous n'évoluez pas de façon parallèle aux autres, parce qu'il n'y a pas d'influence extérieure. On ne peut pas faire jouer la linguistique dite aréale. Mais par contre, comme vous êtes dans un isolat, dès qu'il y a une innovation, elle se répand très vite. Et donc, les langues isolées sont des langues qui sont à la fois archaïques et en même temps innovantes. Voilà. Je vous laisse pour l'instant. En tout cas, toutes ces langues qui sont ici, sont des langues pour lesquelles on trouve sans difficulté un étymon sanskrit. Quand j'avais étudié avec mes étudiants des textes Kowar et Kalasha, pour le Kowar, on avait l'impression qu'on prenait un dictionnaire sanskrit et puis qu'on traduisait. Mais elles ont la même origine de ces populations de langues indo-européennes qui sont arrivées en Inde où il y a eu un semblant d'unification linguistique qui fait que toutes les langues modernes de l'Inde parlent semble dériver du même sanskrit. Par contre, les langues qui sont ici, le kati, ça aussi c'est du kati, le waigali, le trigami, l'ashkund, là vous avez un gros truc de kati, et cette langue bizarre qu'on appelle le prasun, ce sont des langues indo-européennes, mais elles ne sont, Knopf l'a montré, choc, et on l'a toujours montré, elles ne sont ni iraniennes, ni indiennes. Et c'est pour cela que je vous en parlerai la semaine prochaine, peut-être sans entrer dans les détails. Si j'entre dans les détails, ça sera encore plus compliqué que ce que je viens de vous raconter sur les isolats qui n'évoluent pas tout en évoluant très vite. Je vous remercie.